BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, il est 15h. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Crypto. On va parler d'actu, on va parler des cours, on va parler de contexte, on va parler de mining, on va parler d'IA. Bref, on a beaucoup trop de sujets pour 25 minutes d'émission parce qu'il n'y a pas eu d'émission, vous l'avez remarqué ces derniers jours. Donc évidemment, j'ai envie de rattraper tous les sujets avec mes invités. Florent Gabriel, fondateur CEO de Blob.io. Bonjour Florent.
Bonjour Sandra.
De vous retrouver. Marvin Scaringer, la fondateur de Vena Labs. Bonjour Marvin.
Bonjour.
Et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. J'ai plein de sujets pour vous, hein, messieurs. Bonjour Enzo, ravi de vous avoir tous les trois sur le plateau. Je vous dis, on n'aura pas assez de temps. Vous nous écrivez, vous continuez à alimenter notre boîte crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez qu'on répond à toutes vos questions les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Allez, on regarde les cours tout de suite. $73,573 pour le Bitcoin. Je fais un petit commentaire parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, c'est remonté. C'est une crise qui semble favoriser le cours du Bitcoin. Et c'est quand même une analyse intéressante, Enzo.
Effectivement, on voit que ça joue un petit peu le rôle d'une valeur refuge alternative. Ce qu'on regarde, effectivement, ce que je vois depuis le début du mois, c'est que on a un mois où il n'y a eu que 2 jours de décollecte sur les ETF, typiquement, ce qui montre qu'on a une reprise des flux du côté institutionnel. Alors, c'est peut-être moins lié, effectivement, à ce qui se passe aujourd'hui en Moyen-Orient, mais c'est aussi probablement, comme d'habitude, dans toutes les guerres et crises qu'on a géopolitiques aujourd'hui, un moyen de pouvoir faire sortir les actifs d'un pays pour des personnes qui voudraient s'en extraire.
Oui.
Ça reste un excellent outil. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça joue vraiment sur le cours? Je pense tout simplement aussi qu'on a fini cette période un petit peu, peut-être, de dégringolade et qu'on arrive dans une phase d'accumulation, une phase sur laquelle on va avoir un range Bitcoin pendant quelques mois, probablement. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas.
Florent?
Oui, de là à dire que c'est lié à la guerre, je ne sais pas.
D'un point de vue événement actuel, c'est remonté à ce moment-là.
Hein, oui, ce qui est étonnant, c'est que ça n'est pas descendu à ce moment-là. C'est surtout ça que je note. On aurait pu craindre, justement, il y avait déjà un sentiment très pessimiste sur le marché. Tout le monde, et on le voit dans notre domaine pour être au quotidien auprès de personnes qui détiennent du Bitcoin ou qui investissent dans le Bitcoin, beaucoup de personnes attendaient, en tout cas chez les particuliers, une chute encore à 40 000 ou à 50 000, alors qu'il y a eu un mur d'achat sur les $60,000. La guerre aurait pu emmener le cours du Bitcoin très très bas parce que Bitcoin est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire ce que les gens pensent qu'il est, un actif risqué pour quand même beaucoup de personnes et pas un actif
refuge.
Et il n'a pas réagi comme un actif risqué. Justement, les marchés ne sont pas sortis du Bitcoin assez étonnamment.
Marvin ?
Je pense qu'il faut quand même attendre encore un petit peu pour avoir la vérité sur ce qui va se passer, parce qu'on ne s'est pas encore gagné. Hein. Juste, on est repassé au-dessus des 72 000, mais rien ne nous dit qu'on y retournera pas et qu'on n'ira pas visiter les 40 ou les 50.
Exactement.
Mais par contre, en effet, pour le moment, c'est plutôt positif par rapport au rebond, mais il faut que ça tienne et il faut garder ce cap des 72 000 qui est un palier, on va dire, pour le consommateur, parce que c'est quand même associé aux élections de Trump. C'est grâce à ça qu'on était passé par-dessus. Du coup, si on reste longtemps sur une longue période en dessous, on pourrait craindre un hiver un peu plus long que prévu.
Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est là où les particuliers sont dans une peur, et on le voit sur cet index, Fear and Greed Index, qui était dans une peur vraiment massive sur le prix du Bitcoin et qui attendait une chute. À l'inverse, les institutionnels y sont rentrés assez massivement, dont Stratégie encore sur les 2 dernières semaines. Donc on voit là où certains paniquent, d'autres renforcent leur position.
11 000 bitcoins la semaine dernière, 4 294 la semaine d'avant, pour un total de
1,5 milliard, je ne sais pas.
Oui, c'est ça, effectivement, à peu près. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que au moment où Strategy continue sa stratégie d'accumulation du Bitcoin, en face, il y a Boris Johnson, qui, on ne sait pas pourquoi, s'exprime. L'ancien Premier ministre britannique, qui lui qualifie toujours Bitcoin de système de Ponzi géant, ce qui montre un petit peu toujours les fantasmes aux extrêmes. C'est-à-dire ceux qui y croient vraiment, qui investissent dessus, et puis ces politiques qui veulent toujours pas regarder ce qui se passe. C'est intéressant quand même.
Bien sûr, et puis en fait, il n'y a aucun rapport entre un système de Ponzi et la manière dont les Bitcoins sont créés, dont le code fonctionne, etc. Donc
voilà.
C'est juste un manque flagrant de connaissance du sujet, tout simplement.
Est-ce que c'est voulu ou pas? C'est toujours aussi
oui, alors après, c'est vrai, discussion. Que, c'est vrai que ça fait buzzer. Dès qu'on en parle, ça fait buzzer. Donc, pour des politiciens, on parlait même un tout petit peu, même très mal. Aujourd'hui, on sait très bien que bien communiquer ou mal communiquer, l'important, c'est de communiquer. Donc, c'est ce qui fait, je pense.
Florent, c'est un slogan. Bitcoin est un Ponzi, c'est un slogan, c'est pas un fait. Ça veut dire qu'un système de Ponzi, il fonctionne avec une entité centralisée, déjà, en général, où les premiers rentrants sont payés par les nouveaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter du Bitcoin, il va pas payer quelqu'un qui a acheté du Bitcoin avant. Bien au contraire, d'ailleurs, il va avoir un meilleur prix. Ça dépend toujours de la date. Donc, un système de Ponzi, dans les faits, c'est un système où il faudrait cotiser tous les mois en espérant avoir des gains futurs de nouveaux entrants. Bon, si on part de ce principe-là, du moment qu'il n'y a plus assez de nouveaux entrants, il faut changer quelque chose pour que le modèle ne casse pas. Ce n'est pas le cas de Bitcoin. Mmh. Soit il faut changer le prix de la cotisation des nouveaux entrants, soit il faut changer les règles pour partir plus tard ou avoir son rendement plus tard. Bon, toute ressemblance avec le système de retraite par répartition est complètement fortuite. Mmh. Mais en tout cas, Bitcoin n'est pas un Ponzi, mais bien d'autres systèmes s'en rapprochent beaucoup plus fortement.
Et c'est intéressant. Lisez, Boris Johnson devrait peut-être acheter le livre d'Éric Larchevêque sur la stratégie Bitcoin qui répond à toutes les critiques et notamment celle-là sur le système et sur le projet. Je reviens sur stratégie avec cette info. Depuis début 2025, l'entreprise a accumulé plus de Bitcoin que le réseau n'en a émis. Est-ce que c'est inquiétant ?
Alors, inquiétant, je pense pas. Par contre, ce qui est positif pour le prix, c'est que ça procure, on va dire, des shorts. Enfin, le marché, il n'y a pas assez de Bitcoin disponible sur les places d'exchange, notamment. On peut parler de Binance ou de Kraken. On voit que les stocks, et c'est surtout Coinbase qui est regardé, les stocks diminuent, et ce qui est positif généralement pour la montée du prix. Du coup, il se passe ce qui devait se passer. Le Bitcoin se raréfie, c'était prévu depuis le début. Mmh. Et forcément, à un moment, il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde. MicroStrategy le sait bien, continue d'en accumuler. Ils n'ont pas prévu de les vendre tout de suite. Et c'est la preuve, ils continuent d'acheter. Et je pense qu'on risque de le voir encore quelques années.
Enzo ?
Oui, c'est effectivement toute cette tension sur la réserve qui fait que parfois on a justement le cours qui peut remonter très vite à la hausse. Si personne à un instant T sur une plateforme vend ses bitcoins, le premier qui les vend, s'il les vend à 300 000, le premier achat soit à 300 000. Sur cette plateforme, Bitcoin vaudra 300 000 à un instant T, pas sur toutes les plateformes. Mmh. Donc effectivement, le fait qu'on ait une réserve qui soit assez limitée crée des tensions parfois sur les prix qui peuvent accélérer la baisse ou accélérer la hausse également pour le prix.
100%.
On peut voir aussi, et on peut se poser la question, c'est une question que je me posais à l'époque, c'est oui, mais comment cela se fait qu'il y a des sociétés qui vont acheter 1,5 milliard de Bitcoin, mais que le prix du Bitcoin n'a pas monté autant, ou même sur des ventes? En fait, il faut bien comprendre que le marché des exchanges n'est pas le marché global, donc le marché de ces plateformes centralisées, ce n'est pas là où Strategy va aller acheter son Bitcoin. Cela se passe en OTC, donc over the counter.
Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ça a été en marché, justement. Et c'est ça qui est intéressant et qui fait aussi...
C'est très rare que ça se passe.
Je suis d'accord.
C'est très rare. En général, on peut le voir même pour Ethereum. D'ailleurs, la fondation Ethereum n'a pas vendu ses Ethereum sur les marchés, mais l'ont vendu à Bitmine, de mémoire, une Ethereum Treasury Company. Donc, par contre, est-ce que c'est un bon signe que ces compagnies accumulent autant de Bitcoin? J'en suis pas sûr.
Pourquoi?
Ça peut être un vrai risque systémique, en fait, sur le marché, encore une fois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques de marché, c'est tout comme les bitcoins de Satoshi. Si un jour, ils sont forcés de vendre, pour X ou Y raison, c'est Bitcoin Trésor et compagnie, ça impactera le marché. Par contre, ce qui est vrai, ça n'impactera aucunement le réseau Bitcoin. C'est-à-dire que tout ce qui fait la valeur de Bitcoin, son incensurabilité, sa résilience et sa décentralisation, ça reste intrinsèque. Le prix bougera à ce moment-là sur des nouvelles, mais ça n'impactera pas plus que le prix.
On va passer à votre activité, Florent. On voulait parler des surplus d'énergie nucléaire. C'est votre actualité, votre dada. Que dit le dernier rapport EDF ?
Alors, le dernier rapport EDF, qui a mis énormément de temps à sortir, qui a été repoussé, c'était un rapport sur la modulation des réacteurs nucléaires en France. Donc, on le soupçonnait depuis longtemps. Pour rappel, l'énergie qui est produite doit avoir la même demande en face. On ne sait pas stocker l'électricité, ou alors de manière vraiment très faible, avec des lacs, avec de l'eau, avec des batteries, mais ça ne suffit pas par rapport à notre production d'électricité. On dit en France, on n'a pas le pétrole, on a des idées, mais on a surtout de l'électricité.
Beaucoup, beaucoup,
beaucoup trop. Beaucoup, trop, je ne sais pas.
Ça dépend quelle
mal
solution
utilisé,
on met en face.
Mal utilisé,
mais on a des surplus.
Donc, ce rapport est sorti et il montre une chose, c'est que les centrales nucléaires qui sont censées être utilisées, c'est un outil qui est censé être stable, utilisé à 85-90% de leur puissance en général. Aujourd'hui, on demande à un outil qui était censé avoir une production fixe, d'avoir une production flexible. Parce qu'en face, il n'y a pas de consommateur flexible. Donc, on va demander aux centrales nucléaires aujourd'hui de moduler leur puissance. Pourquoi ? Bah, quand il y a du soleil, on peut dire quand il y a du solaire, il n'y a plus de nucléaire. Ou en tout cas, il faut baisser le nucléaire. Mmh. Avec la production d'énergie renouvelable, et attention, je ne critique pas du tout les énergies renouvelables, je pense que dans un mix énergétique d'un pays, pour être vraiment en autarcie complète sur son énergie, il faut avoir un mix énergétique, que ça soit du nucléaire, que ça soit du solaire, de l'éolienne, et tout ce qui peut, tout ce qui est en tout cas sur notre territoire et à notre portée. Par contre, quand il y a du soleil ou quand il y a du vent, on doit diminuer deux choses. La puissance de nos réacteurs nucléaires, faute de débouchés économiques. Ça veut dire que la phrase la meilleure électricité est celle dont on ne consomme pas, elle est fausse. Elle était vraie, elle est devenue fausse aujourd'hui, et c'est quelque chose de systémique qui ne va pas descendre. EDF estime la hausse de la modulation nucléaire et la perte de débouchés économiques à environ 40 TWh. C'est un tiers du réseau Bitcoin annuel. Aujourd'hui, il y a une solution qui est utilisée par de nombreux États. Je pense que la France est en train d'explorer de source sûre ce système-là. C'est plutôt que d'avoir de l'électricité qui est jetée par les fenêtres, parce que c'est concrètement le cas. Je travaillais sur des barrages hydroélectriques avant pour EDF. On arrêtait les turbines et on laissait passer l'eau par-dessus les vannes. Donc c'est de l'énergie qui est perdue, qui ne reviendra jamais. Cette électricité peut être stockée sous forme de revenus avec le minage de Bitcoin, qui est le premier consommateur de premier recours et qu'il sera un jour, je le souhaite, de dernier recours.
Le minage doit se faire avec un prix d'électricité extrêmement bas. Est-ce qu'en France, il est suffisamment bas pour permettre cette activité ?
Oui, parce qu'en fin de compte, le minage de Bitcoin, comme vous le dites, est dépendant du prix de l'électricité. C'est un de ses plus grosses clés de rentabilité. Il faut avoir de l'électricité pas chère. C'est pour ça que le minage de Bitcoin, aujourd'hui, il est utilisé et fait majoritairement sur des extra-capacités. On parle de 30 à 40 TWh en France, non distribués, non vendus par faute de débouchés économiques. Ça veut dire que ce prix-là est de zéro. Le kilowattheure est de zéro. Voire même en négatif. C'est-à-dire que vous allez payer pour injecter de l'électricité sur le réseau électrique lors de ces événements qui ne sont plus rares du tout, qui sont tous les jours.
Enzo.
Ce que je trouve assez étonnant dans tous ces échanges qu'on a aujourd'hui avec l'Europe et l'énergie, c'est l'intervention de von der Leyen la semaine dernière sur justement le rapport qu'on a au nucléaire. Et donc, il semblerait qu'en plus, le prix de l'électricité soit indexé au prix du gaz et qu'aujourd'hui, la situation des géopolitiques fait que le prix du gaz explose un petit peu. On avait, visiblement en fin des années 60-70, une production électrique qui était entre 30 et 40% issue du nucléaire, qui est passée aujourd'hui à 15%. Visiblement, ce que demande l'Europe aujourd'hui, c'est de rouvrir les vannes sur la production d'énergie nucléaire, parce qu'en fait, on comprend qu'aujourd'hui, si on veut être en autonomie en Europe sur la partie énergétique, le nucléaire est clairement la piste la plus avantageuse et aujourd'hui, en tout cas pour la France, la plus concrète et la plus facile à remettre en place.
Complètement, et il y a même encore des absurdités politiques sûrement d'anciens lobbies où on voit que les taxes ne sont pas les mêmes sur les gaz que sur l'électricité. Il y a aujourd'hui plus de taxes sur l'électricité que le gaz. Mmh. L'électricité qui est produite chez nous a plus de 95% décarbonée. Donc il y a encore beaucoup d'inepties. Pareil, on a favorisé, on s'écarte un peu de Bitcoin, mais c'est important parce que le secteur de l'énergie est complètement lié. On a favorisé des chaudières au gaz chez les gens, alors qu'on aurait dû favoriser des pompes à chaleur électriques qui sont en plus beaucoup plus rentables que quelque chose dont on ne possède pas.
Florent, vous rencontrez régulièrement les responsables politiques, oui. les responsables à Bercy, vous en discutez de ces sujets-là. Est-ce que vous voyez les dossiers avancer ? Est-ce que vous avez espoir que ça puisse atteindre finalement des projets concrets en France ?
Moi, je suis un éternel optimiste, donc déjà, je suis un peu biaisé, c'est-à-dire que oui, mais non, je le vois de l'intérieur, clairement, c'est en train d'évoluer. Si je devais résumer en une phrase, ça évolue, mais ils ont d'autres soucis aujourd'hui.
Ça veut dire que ça ne fera pas forcément partie, contrairement à ce qu'on avait dit, des projets peut-être pour 2027
on est un an pense que ça en fera partie. Je pense que ça en fera partie, c'est obligatoire, mais, je mets un gros mais, à une condition, c'est que quelqu'un soit contre. Parce que pour le moment, ils sont tous pour.
Ouais.
Ce qui est plutôt pas mal, hein. Mais
Il y aura forcément du débat,
mais vu qu'ils sont tous d'accord que c'est quelque chose de bénéfique et que le Bitcoin, ce n'est plus le B-word, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, le Voldemort des monnaies. Aujourd'hui, on est complètement conscient qu'on a des surplus de capacité électrique, que le Bitcoin n'est plus ce qu'il était perçu, en tout cas comment il était perçu il y a quelques temps. Donc, ça sera un sujet de débat, mais je ne suis pas sûr que ça sera le débat du tout, pas du tout le débat majoritaire, parce qu'ils sont plutôt d'accord. Et oui. Généralement, un débat, c'est plutôt... Eux, ils sont pour, donc nous, on est contre. Oui, en France, ça se passe souvent comme
c'est
ça, quand même.
C'est quand il y a consensus, finalement, c'est pas forcément peut-être la meilleure solution. Marvin, votre avis ?
Non, bah, dans tous les cas, le minage en France, c'est déjà le cas. Enfin, on le sait très bien, il y a déjà des entreprises comme Floro qui exercent sur le secteur.
Oui, mais qui opèrent aussi ailleurs beaucoup.
Mais on est tous partout, sauf en France.
Voilà, c'est ça. C'est des entreprises françaises, mais
du moment où ils utilisent de l'électricité gratuite, enfin, c'est bête de l'acheter à la poubelle, ouais. Autant la rentabiliser et en générer de la valeur, surtout dans le contexte économique actuel en France. Je pense qu'on n'a pas envie de jeter de l'argent à la poubelle, et ça serait triste de pouvoir passer à la télé et de dire qu'on veut le faire. On voit que ça avance dans le bon sens, et on sait très bien que durant les prochaines élections, ce sera un sujet qui tombera sur la table, parce qu'il y a quand même des idéaux écologiques qui iront à l'encontre du minage.
Pas du tout.
Sur le débat, je suis assez persuadé qu'on verra quand même 2-3 arguments contre le Bitcoin.
Oui, peut-être le grand hamster d'Alsace, là, l'endroit où on voudra faire le data center, ça, oui. C'est possible. Mais par contre, on voit d'anciens ministres comme François Dorigy qui se sont exprimés sur le sujet, qui étaient vraiment pour, qui ne sont pas des politiques d'extrême droite ou de droite, comme aiment tant le rappeler certains journalistes pour dire oui, mais le Bitcoin est quelque chose d'extrême droite. Oui. Pas du tout. Ensuite, la France Insoumise en a parlé, bon, bah, c'était plus qu'extrême, et une fois que tout le monde en parle, bon, bah, on ne sait plus trop quoi dire. Oui. Aujourd'hui, j'ai été invité il y a quelques temps par la mairie écologiste de Strasbourg pour en parler. Donc, on voit que même dans les partis écologistes, de gauche ou de n'importe quel parti, le pragmatisme l'emporte, en tout cas pour ceux qui réfléchissent un minimum. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que tu es plutôt d'accord avec moi.
Non, je veux dire par là que ça va probablement les pousser à réellement, techniquement, s'y intéresser. C'est-à-dire,
exactement.
Effectivement, ne plus être dans l'opposition et de garder les bons vieux arguments contre, mais de là, de vraiment techniquement s'y intéresser. Qu'est-ce que ça va faire sur notre énergie? Qu'est-ce que ça va faire sur le prix des factures,
exactement.
En français? Que là, on va peut-être rentrer dans les vrais sujets.
Bah, la crainte que peuvent avoir les gens, c'est de dire, oui, mais si les mineurs de Bitcoin prennent de l'électricité, notre électricité va monter. Alors déjà, de un, pas du tout, parce que le mineur, on va utiliser de l'extra-capacité. Même si on va faire de la base. Il faut bien comprendre que, si je devais faire un parallèle, admettons vous avez un restaurant avec des coûts fixes, votre cuisinier, vos serveurs, et vous avez 100 plats à servir. S'il n'y en a que 50 qui viennent manger tous les jours, votre coût est trop élevé, vous devez monter le prix de vos plats. Mais si vous vendez 100% de vos assiettes tous les jours, le prix mécaniquement va baisser. Et c'est ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe ailleurs avec le minage de Bitcoin. Et l'effet, le revers de la médaille, mais qui est du coup des deux côtés, qui est plutôt bon, c'est qu'en fait, la modulation des réacteurs nucléaires, déjà, de un, on peut faire gagner de l'argent à notre électricité nationale, qui est EDF aujourd'hui, ou la Compagnie Nationale du Rhône, enfin, tous les gens qui produisent de l'électricité, mais aussi, on évite des coûts estimés à plusieurs milliards de la modulation sur nos réacteurs nucléaires.
Oui, qui coûte.
Qui coûte de l'argent, c'est-à-dire...
L'utilisation.
Le rapport a mis en exergue qu'on était en train d'user nos réacteurs qui n'étaient pas du tout prévus pour ça.
Quand ils ne sont pas utilisés à leur capacité maximale. On a 5 minutes, parce qu'après on a le top flop pour terminer. Je vous avais dit, il y a beaucoup trop de sujets aujourd'hui. On a parlé juste avant cette émission d'intelligence artificielle. Et c'est passionnant parce que je vous écoutais discuter de l'avenir de vos boîtes, à tous les deux, avec cette intelligence artificielle qui arrive, et vous dites que vous vous en êtes saisi, que ça va aider votre business, que ça va beaucoup plus vite, et vous trouvez ça passionnant, notamment vous Marvin, sur Vena Labs. Comment ça se concrétise l'entrée de l'intelligence artificielle chez vous?
Alors, de multiples façons, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça vient s'attaquer à plusieurs activités du business. L'IA est en train de se développer à une vitesse qui est fulgurante. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la crypto-monnaie et j'ai eu la chance de voir des vagues d'innovation arriver sur le secteur. La grande vague d'innovation DeFi qu'on a connue entre 2020 et 2022, on voit littéralement la même chose qui est en train de se passer en ce moment dans l'IA, notamment de par les levées de fonds. C'est avant tout l'innovation est financée, non mais on va pas se mentir, par de la levée de fonds.
Ouais.
les quantités levées par les boîtes américaines, où on peut voir récemment OpenAI qui a levé des dizaines de milliards pour justement se positionner sur ce secteur, ça se reflète dans les entreprises intérieures.
Mais chez vous, chez Venalabs, c'est où
généralement, premièrement, tout ce qui va être recherche d'actualité. Ouais. Nous, ce qu'on doit faire sur la plateforme, c'est mettre à jour tout ce qui va être relatif à des distributions de crypto-monnaies, ce qu'on appelle des airdrops. Tout ça, c'est quand même un gros travail de recherche à suivre les bons comptes, savoir quel projet pourrait potentiellement faire un airdrop. Ce travail, aujourd'hui, il est fait par des robots. C'est-à-dire qu'avant qu'on avait des humains qui allaient passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux pour justement faire cette recherche, aujourd'hui, c'est fait par un robot qui envoie via un message et un groupe Discord un message à un autre robot pour que le deuxième robot vienne justement automatiser le déploiement de toutes ces informations sur la plateforme. Du coup, une entreprise qui nécessitait à l'époque 5-6 personnes pour tourner, aujourd'hui elle est 100% automatisée par de l'IA, et ce que font les humains au sein de cette société, c'est simplement soit rajouter des nouvelles fonctionnalités, soit pouvoir développer le design, mais tout est automatisé et le cœur du business est 100% automatisé.
Vous m'avez dit à tel point que tout ce qui est crypto, bon, c'est automatisé et que vous allez presque vous concentrer maintenant justement sur le développement d'outils IA.
100%. Et pour moi, je reste passionné par ces nouvelles technologies et je pense que c'est important de maîtriser ces outils de la même façon qu'il est important de connaître le fonctionnement de la blockchain, comment interagir avec un wallet. Pour moi, demain, il faudra savoir utiliser un Claude, un ChatGPT, un Gemini. Chacun ont leur spécificité, que ce soit pour de la génération d'images, pour de la génération de documents Word, pour du développement technique, pour de la tech pure et dure. Ça remplace le travail de 5-10 ingénieurs aujourd'hui. C'est vraiment magique ce qui se passe. Alors oui, il y aura un Venalabs IA qui arrivera, il n'y a pas de discussion sur le sujet. Et c'est passionnant de voir toute cette innovation arriver dans ce secteur.
Florent, ça se concrétise comment chez Blob ?
C'est passionnant autant que c'est effrayant.
Ouais.
Ça veut dire que ça remplace des capacités même créatives où on pensait que l'IA n'irait pas. À une échelle que l'on ne soupçonnait pas il y a encore quelques temps. L'intelligence artificielle avait beaucoup d'hallucinations, on en rigolait il y a 2 ans, il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y en a encore, mais de moins en moins. On est sur quelque chose qui s'auto-améliore. Mais c'est assez effrayant à la vitesse où on peut dupliquer un business aujourd'hui d'une façon ultra rapide. Là
sans
où
erreur possible.
Non, bien sûr qu'il y a des erreurs et qu'on a encore besoin de l'humain. Oui. Mais combien de temps, ça, j'en suis pas persuadé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est passionnant autant que c'est effrayant. Parce que 99% des gens ne sont pas conscients de l'évolution technologique. On le voit, pour être dedans tous les jours, à suivre ce qui se passe, on a toujours l'impression d'être en retard. Alors je me dis déjà, waouh, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes qui ne vont pas se former à l'IA ? Alors attention, aujourd'hui, je ne dis pas que l'IA va remplacer tout le monde. Ça déplace la valeur de l'être humain ailleurs. Tout comme la calculatrice à l'époque, on pouvait passer des heures à faire des calculs ou une division. Et maintenant, on va plutôt mettre la valeur de l'humain sur la résolution du problème et pas à faire des divisions sans utilité. Donc, on va déplacer la valeur de l'humain ailleurs, mais les gens vont devoir se former à l'IA, sinon ça sera de futurs analphabètes.
C'est une transformation. Il va y avoir beaucoup de...
Bien malin celui qui sait.
Dans les jobs, mais il y aura aussi des créations d'emplois. Effectivement, vous avez raison, ça va passer par la formation. Un avis, Enzo, avant d'aller très vite.
Oui,
sur
je pense qu'on peut demander à une IA de comment est-ce qu'on construit une maison. C'est pas l'IA qui l'a construit aujourd'hui. Donc il y a quand même, encore une fois, pour les humains, on a encore quelques capacités qu'on nous retirera pas. Effectivement, par contre, c'est une technologie aussi à adopter aujourd'hui. Très rapidement, puisque ça fait gagner énormément de temps et donc énormément d'argent.
Et qui va changer la vie des boîtes aussi de la crypto, enfin, très clairement au quotidien.
Alors, dans le bon et dans le mauvais sens, c'est justement, je pense, ce dont je vais pouvoir vous parler.
Alors, Enzo, il reste 2 minutes, donc il va falloir faire un choix.
On va parler du top,
c'est comme vous voulez. Alors, franchement, je vous laisse le choix.
On va parler du top, puisqu'il est assez intéressant, puisqu'on retrouve justement deux crypto-monnaies qui sont en lien avec l'IA. Alors, on retrouve River, plus 90% sur 7 jours. Donc, c'est un fonctionnement protocole de DeFi qui, en fait, est utilisé dans la coordination de liquidité entre différentes chaînes. C'est-à-dire, j'ai un actif sur une chaîne, je peux le garantir sur une chaîne pour pouvoir l'émettre sur une autre. Tokenomie de 100 millions de jetons au maximum, 20 millions de jetons déjà émis, donc 80% de la supply encore à être imprimée. 87% des jetons sont détenus par les 10 plus gros portefeuilles. Voilà, ça vous donne déjà un bon a priori de ce que ça pourrait rendre plus tard. Pour moi, un peu trop risqué. En revanche, les deux suivantes, donc en lien avec l'IA. Artificial Super Intelligence Alliance, on en a déjà parlé dernièrement, plus 58% sur 7 jours, c'est un regroupement de plusieurs protocoles d'IA liés à la blockchain, 2,71 milliards de jetons au maximum, aujourd'hui 2,26 milliards de jetons. Donc, on arrive pratiquement au bout. En revanche, 50% de ces jetons étaient réservés aux ADV, à la Fondation et aux, aux créateurs de ce jeton. Donc, c'est une thématique qui est énormément portée par l'IA aujourd'hui, tout comme BitTensor, ouais, TAO, plus 38% sur 7 jours, plus 222 000% depuis mars 2023. C'est du machine learning, intelligence artificielle, etc. 21 millions de jetons maximum, 10 millions de jetons aujourd'hui émis. Donc, faut se préparer une dilution de 50%. Assez peu d'informations sur la concentration. En revanche, s'il y a bien une chose, je pense, à retenir sur ces thématiques de l'IA aujourd'hui, c'est que il faut bien comprendre, pour ceux qui souhaiteraient profiter de cette thématique, qu'en investissant dans des crypto-monnaies, vous n'investissez pas dans l'économie de cette intelligence artificielle réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de corrélation entre la valeur générée par l'IA et le jeton. C'est-à-dire qu'une société peut être structurée justement en société, et donc les revenus qui seront générés par Citia sont captés par la société et pas par le jeton. Mmh. Petite chose à bien retenir, donc attention aux différents business cases sur ces sujets.
Très vite, les flops, on a une minute.
Alors, on continue les flops. Kite, moins 32%, effectivement, ça vole bas. C'est du paiement par IA cette fois-ci, donc très volatile. 18 milliards de jetons maximum, 1,8 milliard de jetons imprimés, donc un cinquième uniquement. Donc, il faut s'attendre à une grosse dilution d'encore 80%. Et 68% des jetons sont détenus par 10 portefeuilles. On a ensuite Pi, moins 17%. C'est mon chouchou des cryptos les plus nuls, en fait, hein, ce truc-là. Pi Network, hein, désolé. Mais à chaque fois sur les réseaux, je me fais un peu éclater, mais clairement, j'en ai...
C'est un scam depuis des années.
Voilà.
Qui...
Ah là là. Donc, Tokenomics, 100 milliards de jetons au maximum.
C'est pas grave, j'assume.
Tout le monde est d'accord.
Exactement. 10% des jetons uniquement émis. Donc, en gros, c'est une grosse dilution. Les 90% des Pi sont détenus par les 100 plus gros wallets. Et en dernier, Morpho, on en parle régulièrement ici. C'est très volatile, moins 11% cette fois-ci, en revanche, sur 7 jours. C'est du Defi Lending, un concurrent, on va dire, à AV. Voilà, on en parle déjà souvent, donc je vous invite à regarder les vidéos pour savoir un petit peu les replays, savoir ce qu'on en pense ici.
Il faut toujours regarder les replays de cette émission, évidemment, qui sont sur notre antenne, sur l'appli, sur le site, sur nos réseaux sociaux, juste après l'émission, c'est mis en ligne, évidemment. Merci à tous les trois d'être venus. Florent, Gabriel, Marvin, Karine Gela, Enzo Allo, je me dépêche, je suis en retard, je prends du temps sur BFM Bourse. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.